Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur RFI pour vous parler comme chaque jour et commencer la semaine en parlant de football. Avec cette Ligue des Nations en Europe et la victoire de l'Angleterre sur la Belgique, la jeune garde de la Free Lions a marqué, mais a-t-elle convaincu face aux Diables Rouges? La France et le Portugal ne nous ont pas vraiment convaincus. Une rencontre fermée, sans aucun but, peut-être la volonté de leur sélectionneur très défensif sur le papier, comme on dit. Ce qui n'a pas empêché la star CR7 d'adouber son jeune admirateur, Kylian Mbappé, par des gestes amicaux et d'encouragement. Des rencontres aussi pour les équipes africaines, des rencontres amicales pour se jauger. Et cet affrontement entre Lyon, qui a tourné à l'avantage des Marocains au détriment des Sénégalais. Les écureuils du Bénin, sur leur lancée victorieux des Panthères gabonaises, sans leur cadre, il faut le dire. Et les étalons, faciles vainqueurs des Léopards congolais, eux aussi, sans certains de leur cadre. Tout cela à un mois de la reprise des éliminatoires de la prochaine CAN. On ne sait pas trop quand ni où, mais la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Au Cameroun.
Au Cameroun, oui. Mais quand ?
À 2022, hein, si ça ne bouge
c'est
plus.
C'est ce qui est prévu. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie. Bonjour à
tous. Bonjour aussi à Bruno Constant.
Bonjour Annie.
Bonjour à tous.
La Free Lions, ça vous inspire, j'espère.
Un peu, oui.
Un peu. Et puis Naïm Moniol qui est là. Bonjour.
Salut Annie, salut à tous.
Naïm tout l'inspire, j'en suis sûre. Oui. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission aujourd'hui. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. Avant de partir vers la Ligue des Nations, nous allons rendre un hommage au sportif du week-end, un supporter passionné de football qui a commencé à s'illustrer en 2005. Tiens, en 2005, qui a remporté le Ballon d'Or ?
2005,
Liverpool, les champions, Gérard, non.
Non, c'est pas Kaká en 2005 ?
Non, c'est pas Kaká. C'est un autre Brésilien.
Alors du coup, c'est...
Ronaldinho.
Très bien. Très bien, Patrick Juillard, premier point. Et qui remportait donc la Ligue des Champions en 2005 ?
La fameuse soirée d'Istanbul.
Oui, incroyable. La fameuse face au Milan. Assez bravo, Bruno Constant.
Et qui a remporté la Ligue Europa ?
Elle existait déjà.
Ouais, enfin, la Coupe UEFA.
Ah, ouais. C'était peut-être Séville, non ?
Non, c'était CSKA Moscou.
Bravo.
Ouais, contre Lisbonne.
Bon, mais alors il reste une question pour vous départager.
Il crée lui-même les questions pour avoir des points.
C'est pas bête.
C'est bien fait parce qu'on n'avait pas pensé à celle-là. Mais en 2005, qui était champion de France ?
Lyon.
Bravo, ouais. C'était la grande série de l'Olympique lyonnais. Alors pour son premier titre, il avait le même âge que Donatello lorsqu'il fut champion du monde. Ah. Et il manie la balle lui aussi avec virtuosité. Il porte le nom d'un illustre peintre de la Renaissance italienne. Qui est-il ?
Tortue Ninja ?
Non. La Tortue Ninja, oui, mais qui est-il le sportif du week-end ?
Raphaël.
J'aurais dit Nadal, non ?
Voilà. Ah,
cet homme est invincible, indéboulonnable, phénoménal. Raphaël Nadal remporte Roland Garros pour la 13e fois, sa 100e victoire ici, son 20e Grand Chelem.
À 34 ans, il a gagné Raphaël Nadal. On a l'impression qu'il ne vieillit pas. Est-ce qu'il vous a épaté vous aussi ?
Bah oui, enfin toujours.
Vous
évidemment.
Les supporters de foot, non, lui le grand supporter.
Évidemment, après on ne pouvait être déçu d'avoir une finale à sens unique et de pas avoir un vrai choc des titans comme c'était annoncé.
C'est ça. Mais quand même 13 titres.
Ah oui, 13 titres et
le premier en 2005, vous rendez compte.
Moi j'ai fait le parallèle avec Hamilton en Formule 1, lui qui a égalé le record de Schumacher. Et ils ont à peu près le même âge et c'est pareil, ce sont deux champions relativement, j'ai bien des relativement humbles et accessibles par rapport à la star qu'ils sont et qui pourraient donc évoluer dans des sphères un peu plus mégalos. Je trouve qu'ils sont restés relativement simples et accessibles. Donc c'est pour ça que Nadal reste un joueur apprécié, même si les puristes préfèrent le jeu de Federer.
Nadal, les pieds sur terre, sur la terre battue.
Mais
13e titre, 20 en Grand Chelem, c'est un record énorme.
Ce qui est très fort, surtout, c'est qu'il a toujours battu les plus forts, en fait. C'est qu'il n'a pas gagné ses titres de Grand Chelem quand il n'y avait pas de concurrence, quand il y avait un écart abyssal entre le numéro 1 et le numéro 2. Il a gagné ses titres à l'époque de Federer, Djoko, Andy Murray. même si Murray aujourd'hui c'est moins bien. Donc oui, c'est forcément impressionnant, un joueur de ce style. Après, je vous cache pas que le tennis, ça m'échappe un peu. Mais...
En tout cas, eh ben, à qui ça n'échappe pas le tennis, alors on va comprendre pourquoi, c'est au sélectionneur de l'Espagne. Mmh. Alors, Rafael Nadal est un supporter déclaré de la Roja, n'est-ce pas? Mais Luis Enrique, eh bien, il n'a pu faire autrement que de lui rendre hommage.
Je tiens vraiment à féliciter Rafael Nadal au nom de la Fédération espagnole de football. Je retiens sa manière d'affronter les échecs et son respect pour ses adversaires. Avec cette victoire, il est la fierté de notre pays. Il nous offre une véritable leçon de vie.
Voilà pour ce qui est de Luis Enrique. Petit détail,
oui,
Patrick Juillard.
Oui, petit détail, Rafael Nadal aime le foot, bon, comme beaucoup d'Espagnols, mais aussi et surtout parce que dans sa famille figure un grand footballeur, Miguel Angel Nadal, qui était un joueur des années 80,
du Barça.
Du Barça notamment, et voilà, qui a déjà placé le nom de Nadal sur la carte du sport espagnol.
Qui a notamment fait le Mondial 94.
Est-ce qu'on peut s'inspirer d'un champion pareil Bruno Constant, sans évidemment oublier que c'est quand même un sport individuel alors que le football est un sport collectif. Mais est-ce que ça peut inspirer des footballeurs?
Je pense en tout cas des footballeurs qui sont déjà dans le monde professionnel et qui voient Nadal, la longévité de Nadal, la façon dont il a travaillé année après année. Même quand il gagnait des titres, il repartait au combat en allant travailler comme un archenet, un fou de travail. Et ça me fait penser un petit peu à Mbappé, j'ai un petit peu, c'est difficile de les comparer. Mais ce que dégageait Mbappé au début de sa carrière, c'était le fait qu'il voulait progresser, travailler toujours pour être le meilleur. Ce qui est peut-être un peu moins le cas depuis la Coupe du Monde. Oui. Mais justement, peut-être qu'il devrait se reconcentrer sur le travail en regardant un grand champion comme Nadal.
Puis il a quand même été très blessé, Nadal, sur les derniers temps. Mm-hmm. Là. Il a quand même eu des saisons compliquées qu'il a dû arrêter en cours de route parce qu'au niveau du bras, du coude, de l'épaule, ça allait pas fort.
Et vu
le palmarès qu'il a, il aurait pu comme ça se laisser un peu aller. Il est revenu très fort.
Peut-être surtout, il fait preuve de longévité. On commence à le voir de plus en plus dans le football aussi,
voilà,
Patrick Juillard.
C'est un petit peu nouveau, ça. C'est-à-dire que jusqu'aux années 2000, les footballeurs, après 30, 31, 32, 33 ans, souvent ils raccrochaient ou ils finissaient leur carrière en roue libre. Ce qu'on voit avec les champions de la trempe de Cristiano Ronaldo et de Messi, pour ne citer qu'eux, c'est que ce sont des champions qui veulent durer et qui y arrivent. On peut aussi rapprocher de Zlatan Ibrahimovic, qui continue à être hyper performant à presque 40 ans. Et ça, c'est nouveau et Nadal incarne peut-être ça. Alors je pense que c'est dû beaucoup au progrès de la préparation.
De l'entretien,
à la possibilité de mieux préparer tous les matchs, parce qu'on a aujourd'hui une abondance jamais vue d'images des adversaires, donc on peut mieux cerner leur jeu et se préparer à les affronter. Et je pense que tout ça, ça favorise des carrières plus longues et des meilleures préparations finalement.
Voilà notre coup de chapeau à ce Rafael Nadal qui a remporté 13 fois donc, et la première fois en 2005. Roland Garros, c'est pas très loin de RFI d'ailleurs.
Ou bien Alexander Arnold peuvent-ils en profiter, le second poteau? À nouveau Mason Mount, il est capable, bien sûr qu'il est capable, avec une frappe déviée, d'aller chercher la lucarne opposée.
A magical moment for Mason Mount, and England from behind lead against the world's top ranked nation.
Les Anglais dans la Ligue des Nations, ce but inscrit donc par Mason Mount pour signer une victoire à Wembley sur la nation, pourtant toujours première au rang FIFA, c'est la Belgique. Alors une petite revanche peut-être pour les hommes de Southgate qui avaient disputé et perdu la petite finale de la Coupe du Monde en Russie en 2018, mais on sait que cette petite finale n'intéresse pas toujours tout le monde. En tout cas, les Diables Rouges avaient pourtant ouvert la marque sur pénalty avec Lukaku, mais leurs adversaires de la Four Lions ont peut-être eu plus de réussite dans cette victoire. On va en parler. En tout cas, le sélectionneur Gareth Southgate a donc reconnu, lui, une faiblesse, un talon d'Achille à son équipe.
Well, I just think it was...
J'ai trouvé que c'était un match de très haut niveau, que ce soit sur le plan tactique ou sur le plan physique. Le match était à un niveau très élevé. Nous avons très bien débuté, notre utilisation du ballon était bonne dans les 10-15 premières minutes, nous avions l'air confiants. Puis nous nous sommes fait prendre par quelques contre-attaques où nous aurions dû être mieux positionnés en défense. Cela nous a un peu déstabilisés et nous ont causé beaucoup de problèmes en utilisant bien toute la largeur du terrain.
Est-ce qu'ils ont eu de la chance, ces jeunes Anglais ou ces Anglais, en gagnant ce match face à la Belgique, Bruno Constant ?
Quand même, ouais. Quand on regarde la performance, ils ont montré si peu. Ils ont eu une équipe avec 7 joueurs à vocation presque défensive. Oui. Ils ont marqué 2 buts avec un penalty qui pour moi est inexistant, exact. Et puis une frappe déviée. Ça fait lourd pour la Belgique, qui a été plutôt séduisante, en tout cas en première période. Les Anglais un peu mieux en deuxième période pour leur coup. Mais voilà, il y a un peu l'idée que l'Angleterre, depuis la Coupe du Monde, elle n'a pas beaucoup progressé. Alors c'est une idée qui transporte comme ça d'un rassemblement à un autre. Et en même temps, quand on regarde le bilan de l'Angleterre, c'est 14 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Donc c'est pas catastrophique. Et puis surtout, il y a des victoires face à l'Espagne, face à la Croatie, face à la Belgique. Et les Anglais avaient tendance à pas savoir gagner ce genre de grands matchs. Enfin, quand je dis grands matchs, c'est les matchs contre les grandes nations, en étant moins bons ou mauvais. Là, ils sont capables de le faire. Maintenant, on peut pas se satisfaire de ce que produit l'Angleterre. C'est pas possible. Mais on a tendance aussi à oublier que l'Angleterre a débuté sans son trio offensif, Harry Kane, Jadon Sancho et Raheem Sterling.
Et avec un milieu de terrain très défensif, Declan Rice, Anderson, et zéro gaucher au coup d'envoi.
Et zéro gaucher. Mais la Belgique n'avait pas beaucoup de gauchers non plus.
Non,
c'était pas un problème.
Oui, non, c'est pas le problème.
Mais mettons, juste pour la comparaison, la France débutait un match contre la Belgique sans Mbappé, Griezmann et Giroud et qui gagnait 2-1 contre la Belgique, on serait tous contents.
Mm-hmm.
Donc c'est pour ça qu'on a. Je comprends les critiques, mais en même temps, il faut remettre dans le contexte. C'est quand même un peu particulier.
Non, c'est un petit peu paradoxal. L'Angleterre, traditionnellement, pour prendre un exemple, a toujours des gardiens relativement faibles. Là, Pickford,
tu trouves ?
Ouais, donc, j'ai un goût de l'euphémisme. Hein. On pourrait dire que c'est souvent des passoires, mais là, Pickford, au contraire, est un des sur le match d'hier. En tout cas, c'était un des maillons forts de l'équipe.
Ouais.
Et c'est une équipe qui est assez compacte. Alors que l'Angleterre avait souvent tendance à laisser des largesses, elle a un peu mal défendu sur la largeur, comme l'a dit Southgate.
Voilà,
ça c'est vrai.
Très mal.
Elles ont Trippier, mais c'est pas vraiment trippant pour faire un jeu de mots.
Ah, c'est un latéral droit qui rend service à gauche.
Voilà, c'est moyen en tout cas.
Compliqué.
Mais ils ont une qualité de réaction. Ils restent dans le match. Et effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est sur le penalty obtenu par Anderson. Il y a pratiquement rien. Thomas Meunier lui met la main sur l'épaule. Anderson tombe comme si c'était le tacle du siècle. L'arbitre siffle et aucun Belge ne proteste.
Mais
donc j'ai eu l'impression qu'en fait les joueurs n'avaient pas grand-chose à faire de ce match.
C'est-à-dire ce qui se dit sur le pénalty, par
exemple,
sur
un match à fort enjeu, les Belges seraient allés vers l'arbitre, auraient dit il n'y a jamais.
Mais si le match n'est pas à huis clos, on n'entend jamais le cri d'Anderson qui pousse un cri énorme dans la surface et l'arbitre n'entend pas.
Oui,
mais s'il y a du public, je pense qu'il n'y a pas de pénalty.
C'est ça aussi l'influence
des matchs. On ne peut qu'être déçu de la prestation de l'Angleterre parce qu'on attend toujours d'une équipe qui a de tels joueurs. Même s'il en manquait beaucoup au coup d'envoi.
On attend souvent de l'Angleterre.
Oui, bien
sûr,
on attend
trop de l'Angleterre.
Oui, mais c'est une équipe qui est troisième de la Coupe du Monde. D'habitude, elle sort en huitième, elle sort en quart.
Sans briller quand même.
Là, elle a un club qui est champion d'Europe. Elle a deux ou trois clubs qui font partie quand même de l'élite européenne. Elle a beaucoup de joueurs.
Oui.
Elle
est quatrième de la Coupe du Monde.
Quatrième de la Coupe du Monde, enfin demi-finaliste. Bon, c'est quand même une équipe avec de grandes qualités. On ne peut qu'être déçu parce qu'au milieu c'était pas bon, parce que derrière Maguire d'ailleurs, même si c'est pas la charnière centrale type, c'est quand même faible. Mais en même temps, moi je trouve que l'Angleterre a un réservoir de jeunes. On a entendu Mason Mount dans votre lancement. Elle en possède d'autres. Elle a Rashford, elle a Abraham, elle a tout un tas de joueurs qui laissent penser que si on arrive à se trouver des petits réglages, si on arrive à trouver des automatismes dans cette équipe, je pense aussi à Jack Grealish notamment, qui est très bon, cette équipe, elle peut faire mieux. Moi, si on va faire un parallèle, on va en parler avec l'équipe de France, qui, elle, aligne son équipe type, et dont on voit sur un match comme le Portugal que c'est quand même difficile de faire mieux en l'état. Les Anglais, c'était pas bon, mais il y a une marge de progression qui laisse quand même espérer de belles choses.
Justement, Bruno, où est-ce qu'elle est cette marge de progression? Plutôt dans quel secteur? Qu'est-ce qui peut faire de mieux, Southgate?
Le problème, c'est qu'à la sortie de la Coupe du Monde, il y avait eu des matchs, notamment contre l'Espagne, la Croatie, où l'équipe d'Angleterre jouait très bien. Mm-hmm. Elle jouait au ballon et elle rivalisait dans le jeu avec ces nations-là.
On avait l'impression qu'enfin, l'Angleterre allait arriver.
Et là,
quoi.
Depuis un an, on a l'impression qu'elle s'est un peu arrêtée.
C'est pas mal arrêté aussi.
Oui, mais je veux dire, Southgate s'est un peu arrêté dans ses réflexions et on voit pas trop là où il veut en venir. Il est repassé une défense à 3 par exemple, qui est une idée en fait pour essayer de masquer la faiblesse de ses défenseurs centraux. Oui. Mais du coup, plutôt que de la masquer, il rajoute un défenseur central qui est un des points faibles de cette équipe. Et du coup, ça fait une équipe très défensive. Et
ça dépeuple ton milieu.
Et on retire un joueur offensif. Donc, notamment Jack Grealish, dont on parle beaucoup en Angleterre, qui est un joueur un peu hors norme.
Un joueur
parce
frisson.
Parce qu'il n'est pas anglais, en fait. C'est un peu comme un Glenn Hoddle ou un Matt Le Tissier en Angleterre, qui étaient des joueurs un peu ovnis. Et on ne savait pas trop comment les utiliser parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir ces joueurs-là. C'est plus des joueurs français ou espagnols, techniquement.
Je vais aller dans le sens de ce que dit Bruno. Effectivement, c'est un peu paradoxal. Il y a beaucoup de joueurs offensifs. Il y a beaucoup de défenseurs, mais il n'y a plus, comme à l'époque où on avait le fameux trio magique Beckham, Gerrard, Lampard, il n'y a plus ces skippers, ce que les Anglais appellent skippers, les joueurs qui donnent le tempo au milieu, il n'y en a plus. Et si vous regardez les clubs anglais de haut de tableau, au milieu de terrain, la plupart des meneurs, des joueurs un peu qui dépositaires du jeu ne sont pas anglais, comme ils pouvaient l'être encore à l'époque, et ça... Ça va être un problème à terme pour l'Angleterre. Il n'y a même plus de joueurs de type McManaman.
Mais ça revient, ça revient.
Non, mais qui après, jouent dans des grands clubs.
Il y a des joueurs. Il y a Madison, il y a Foden.
Voilà, il y a Foden, il y a Barnes, c'est plus offensif. Il y a des vrais beaux joueurs de foot qui n'étaient pas présents sur ce match contre la Belgique. Mais il y a vraiment de quoi faire. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le fait que ce soit la Belgique en face, même si eux aussi leur manquaient des joueurs, le fait que ce soit la Belgique, Southgate, il s'est dit, je vais pas prendre une valise, je vais essayer de mettre une équipe très défensive, avec des milieux très défensifs, Declan Rice, Henderson, ce sont, comme le disait Bruno, des joueurs à vocation défensive, trois défenseurs centraux, et en plus de ça, des latéraux, il n'y avait pas de gaucher, ni derrière, ni au milieu, ce qui a déséquilibré l'équipe. Il a joué petit bras, il aurait pu faire mieux parce qu'il a franchement les moyens, mais je le dis, il y a beaucoup de qualité, beaucoup de jeunesse dans cette équipe, c'est décevant, mais c'est pas inquiétant.
Le problème, c'est que ce genre de résultat,
ça donne presque raison à Southgate. Gagner 2-1 contre la soi-disant nation numéro 1.
Ouais, mais sur un match comme ça, tu peux pas, ça ne peut pas devenir ton projet.
Non, mais surtout,
tu peux pas faire du Deschamps avec les joueurs.
J'ai été frappé, mais ça c'est valable pour les deux équipes et pas uniquement pour l'Angleterre. J'ai été frappé par le manque d'implication des joueurs, le manque d'intensité. C'est-à-dire que c'est un match à enjeu
que tu as vu sur tous les matchs.
Mais c'est dramatique pour cette compétition.
Que tu as vu sur tous les matchs dans cette compétition.
On y reviendra à ça. La Belgique, un petit mot sur la Belgique et sur cette équipe. C'est Diable Rouge, Naïm ?
La Belgique, pour le coup, je ne vais pas dire que c'est inquiétant, mais dominer autant les débats, surtout en première mi-temps, et finalement perdre, et en ne marquant qu'un seul but, c'est dommage.
Oui, voilà.
Mais c'est pareil, hein, Lukaku très fort, De Bruyne, il fait une très bonne première mi-temps, il manquait Eden Hazard. Les Belges, on sait que c'est une équipe, ils ont le potentiel, c'est quand même les Anglais, hein, ça va rarement au bout, mais il y a le potentiel. Mm. Sur un match comme ça, c'est vrai que ils peuvent nourrir des regrets.
Bon, ils seront peut-être plus premiers du classement.
S'ils perdent Marseille, c'est l'équipe de France qui est première championne.
Il n'y avait pas Courtois dans les buts non plus.
Oui, Courtois retenu ou rentré
mais
en tout cas.
Il y avait un gardien
Madrid.
Qui connaît bien les joueurs anglais normalement, mais ça ne l'a pas toujours aidé. Mignolet.
Voilà. Oui. Autre rencontre hier soir, France-Portugal.
Les champions du monde en titre. Face aux champions d'Europe en titre.
Zéro à zéro, score final entre l'équipe de France et le Portugal.
Et la montagne accoucha d'une souris, car cette rencontre, donc entre champions du monde et champions d'Europe, eh bien, s'est achevée sur un goût d'inachevé, peut-être, peut-on dire ça. En tout cas, on a eu l'impression que ce 0-0, c'était la victoire des défenses. Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Grâce à vous, on a suivi ce match sur RFI. Ce France-Portugal vous a-t-il laissé un goût d'inachevé ? Était-ce quand même un match intéressant malgré tout, vous qui étiez dans le froid des allées du Stade de France ? Il n'y avait pas beaucoup de monde pour vous réchauffer.
Finalement, la bande-annonce que vous venez de diffuser, c'est exactement ça. Ça a été un gros pétard mouillé de 90 minutes où on a finalement vu... alors, on l'a compris assez vite en lisant les compositions d'équipe avant le match. On a vu que aucune des deux équipes n'avait l'intention de se lancer à l'abordage et de tenter des choses. Et finalement, c'est ce à quoi on a eu droit. Je relisais mes notes tout à l'heure et j'avais noté des occasions pour l'équipe de France, et en fait ce que j'avais appelé occasion, c'était des situations quasiment à chaque fois avorté. Et la seule occasion, le seul frisson qu'on a pu avoir en dehors de la tête de Pep hors jeu à la 73e, ça a été cette frappe de Cristiano Ronaldo à la 92e et cet arrêt de Lloris. Finalement, il n'y a pas eu grand chose dans ce match et tout le monde s'en est aperçu.
Pourquoi, Patrick Juillard, ce choix ultra défensif? Est-ce que les sélectionneurs voulaient s'en tenir à un 0-0?
Alors, ultra défensif, je nuancerai un peu au sujet du Portugal, puisque le Portugal ultra défensif, moi, personnellement, je l'ai plutôt vu contre l'Espagne trois jours avant, où vraiment Fernando Santos avait opté pour un milieu vraiment besogneux, sans technicien, alors que là, on a quand même vu Bernardo Silva, Bruno Fernandes, titulaire au coup d'envoi, vous avez Joao Félix, Cristiano, Bernardo Silva et Bruno Fernandes derrière eux au milieu.
Et
on peut pas dire que ça soit une mise en place et un choix ultra défensif. C'est plutôt les circonstances qui ont fait que, c'est-à-dire que ce sont deux équipes qui ne se sont pas vraiment livrées et qui ont semblé petit à petit se satisfaire de ce match nul. C'est un résultat de prestige, mais avec un contenu plutôt indigent. Donc moi je vois pas. C'est plutôt les acteurs, les joueurs sur le terrain que les entraîneurs qui sont à blâmer pour moi.
Naïm, on se souvient que le Portugal avait été très critiqué, ça avait beaucoup déplu à Fernando Santos à l'époque pour son jeu à l'Euro 2016 qui était justement très défensif. Est-ce que le Portugal, il y avait déjà Cristiano Ronaldo, il y avait déjà, alors il n'y avait pas encore João Félix, mais il y avait déjà Bernardo Silva. Est-ce qu'ils sont restés dans cette philosophie?
Non, ils ne sont pas restés dans cette philosophie. Le Portugal, c'est une équipe qui est plutôt séduisante à regarder et qui joue au football.
Oui. Non, mais le match n'était pas... Le
Portugal, la seule chose...
mais c'était décevant, par contre.
Décevant, oui, mais parce que la France n'a pas rendu la réciproque au Portugal. Le Portugal, il a attaqué. Sur la première mi-temps, il y a une domination territoriale. Il n'a pas été dangereux, mis à part la frappe de Cristiano contrée par Hernandez. Et la frappe de Cristiano, justement, en fin de match sur Lloris, mais c'est quand même une équipe qui a montré des choses, qui avait des vérités. La vraie déception, elle vient de la France. Elle vient de la France parce que vous êtes à domicile, parce que sur le premier quart d'heure, là où vous devez mettre un coup d'accélérateur pour montrer où vous êtes et qui vous êtes, il se passe absolument rien. Que vous avez Griezmann qui passait à côté de son match, que les individualités fortes sont passées à côté de leur match. Griezmann, Pogba, Mbappé, dont on ne dit jamais rien, mais à un moment donné, il va quand même falloir se pencher sur son cas.
Mbappé,
parce que
les
matchs de haut niveau, il a quand même réussi pas beaucoup sur les deux dernières années. C'est la France qui a été très décevante et qui a rendu ce match décevant. On peut reprocher au Portugal de finalement avoir mal attaqué, de ne pas avoir marqué, mais pas de s'être créé des situations et de ne pas avoir tenté d'emballer le match.
C'était pas leur rôle. Bruno Constant?
Moi, sur les Bleus, il y a quand même un truc qui va pas, c'est ce système en losange. Enfin, soi-disant un losange au départ. Moi, j'ai jamais vu le losange sur le terrain, mais parce que Griezmann descendait trop bas, parce que Mbappé marchait sur les pieds de Giroud. Et que Giroud a besoin d'espace pour être utile à ses coéquipiers. Et puis il y a un milieu de terrain qui a pas fait grand chose, qui a pas proposé grand chose, qui a pas accéléré le jeu, qui a pas cassé de ligne comme Pogba et Rabiot devraient savoir le faire. Après, moi je me dis, quand il y a autant de déceptions de part et d'autre et sur d'autres terrains en Europe et ailleurs, et qu'à un moment donné il y a un dénominateur commun qui est la fatigue, parce qu'il y a vraiment une fatigue et la question se pose, et je pense qu'on l'évoquera un peu après, mais à un moment donné il faut se poser aussi les questions. Pourquoi on n'a pas de spectacle alors qu'on a deux belles nations de football, alors que pour moi les deux équipes étaient plutôt offensives, parce qu'il y avait quand même trois joueurs offensifs, trois attaquants côté équipe de France, et deux milieux créatifs comme Rabiot et Pogba, c'est pas mal. Et puis Portugal, on l'a dit, avec quand même un carré plutôt magique, on va dire. Donc moi, ce qui me déçoit, c'est pas que ça me déçoit en fait, c'est que je me dis, est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce qu'ils ont le jus pour apporter l'avantage? Quand on voit si peu de latéraux monter, et là je parle de l'équipe de France, du Portugal, de l'Angleterre, où il y avait deux latéraux très offensifs, qui apportent si peu, c'est qu'à un moment donné, je me dis, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'apporter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour dire ça.
Antoine Grenier, est-ce que en écoutant les acteurs du match à la fin, après la rencontre au Stade de France, vous avez une réponse à cela?
Pas forcément, non. Faut reconnaître. Enfin, Didier Deschamps, quand il s'est présenté devant la presse, a admis que oui, les attaquants avaient été insuffisants, que le Portugal avait donné une réplique à cette équipe de France et que les Portugais étaient très très largement au niveau. Deschamps, il a fait du Deschamps. Il a évité d'incriminer des joueurs de manière individuelle, évidemment. Alors qu'il y aurait énormément à dire, évidemment, sur la performance performance de Kylian Mbappé. Giroud, il se prend un coup de coude en tout début de match, il est sonné et derrière il peut plus jouer de la tête.
Il a jamais été servi, Giroud.
Mais de toute façon, même s'il avait été servi, il avait une appréhension. Ça s'est vu après son bandage, c'était compliqué pour lui de jouer. La grosse déception, elle vient évidemment d'Antoine Griezmann. Elle vient aussi de celui dont c'est l'éternel retour. Et il va falloir se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de le convoquer ? Est-ce que ça vaut le coup de convoquer Adrien Rabiot pour qu'il fasse d'une zonzie sur le terrain ? Parce qu'il a joué en arrière pendant toute la rencontre. Très franchement,
je pensais que tu parlais de Pogba en fait.
Pogba, il a été décevant, mais au moins il a essayé de jouer vers l'avant.
En deuxième mi-temps,
Rabiot, il a beaucoup travaillé au milieu. Il a joué contre le Danemark pendant la Coupe du Monde.
Moi, je pense que Rabiot, on voyait qu'il voulait assurer, pas faire d'erreur, montrer que. Donc c'est vrai qu'il a joué.
Mais il faut faire plus.
Oui, certes, mais au moins il n'y a pas eu de perte de balle et il s'est pas vraiment caché.
Il faut que ça bouge.
Kanté,
autour de lui,
il a fait du Kanté aussi, hein. Classique. Tu sais, en fait, je reviens sur ce que disait Bruno et je partage. Pour moi, on a vu un 4-1-4-1. On n'a pas vu un schéma en losange. Il y avait Kanté devant la défense, quatre milieux et Giroud seul devant. Et au final, chacun jouait sa partition dans son coin. Mbappé, il a joué tout seul, perso, pendant tout le match. Il n'y a jamais eu de combinaison avec Giroud. Alors, on peut dire que Giroud était introuvable, mais moi, je pense que Giroud était pas cherché, ce qui est pas pareil.
Oui, c'est surtout ça, il a pas été cherché.
Et Griezmann, malheureusement pour lui, il est dans le flou au Barça et ça se ressent en équipe de France.
Pogba, c'est
trop intermittent pour être satisfaisant vu le niveau. Et quand on compare Pogba et Bruno Fernandes, on comprend pourquoi aujourd'hui à Manchester United, le leader technique, c'est plus Pogba, c'est Bruno Fernandes.
Il y a une autre déception sur ce match.
Ils ont la même note, sur le match.
Il y a une autre déception sur ce match, évidemment, et comme souvent d'ailleurs, c'est le comportement de Didier Deschamps dans son coaching. Sur un match comme ça, Aouar n'est pas sur la feuille de match. Expliquez-moi pourquoi.
Aouar a été nul contre l'Ukraine.
On voit pas Kamavinga, on voit pas Tolisso.
Ouais, mais c'est la gestion.
À un moment donné, ces joueurs-là, si tu les fais venir, fais-les jouer.
C'est compliqué.
Parce que le problème, c'est que sur un match comme hier, tu me parles de fatigue, il y a aussi un élément, c'est que les joueurs qui ont joué ne sont pas soumis à concurrence. Tu sais que Pogba, Kanté, Griezmann, Mbappé, Giroud, tu sais qu'ils seront là. Alors que des joueurs comme Kamavinga, c'est des mecs qui ont besoin de se faire une place, qui ont besoin de se faire un trou. Et le simple fait de les faire jouer et de les voir tenter, déjà ça fait une différence avec les titulaires. Je te dis pas que ça va aboutir, mais les voir essayer quelque chose, c'est quelque chose qui a manqué hier. On n'a même pas essayé hier.
Sur le principe, je partage. Après, Aouar, j'ai été très déçu par sa prestation contre l'Ukraine dans un match où pourtant l'équipe de France a pour une fois essayé de produire du jeu et plutôt réussi à bien le faire. Deschamps, je pense qu'il a peut-être pas apprécié tellement non plus son manque d'initiative.
Bon, en tout cas, le joueur qui a une bonne note et qui a impressionné, qui semble très bien installé en défense, eh bien, c'est Prenel Kimpembe. Avec lui, en tout cas, CR7 ne passe pas, bah, plus que Messi, un fameux match il y a quelque temps avec le Paris Saint-Germain. Et Didier Deschamps a reconnu son importance hier.
Il y a un moment qu'il est avec nous, certes, il ne commençait pas les matchs. La situation a un peu évolué quand même à Paris où il enchaîne plus. Il a toujours cette qualité athlétique. Il y a ajouté un peu plus d'application, de concentration. Voilà, donc tant mieux. Même si juste une petite relance à la fin qui aurait pu nous coûter cher, c'est pas évident. C'était un ballon un peu flottant, mais il a été solide, comme le secteur défensif dans son ensemble.
Antoine Grenier, Kimpembe, homme du match pour vous ? Parce qu'ici, dans le studio, ça serait l'homme du match.
Oui, clairement. Enfin, on voit un Presnel Kimpembe faire un vrai gros match, un vrai bon match en équipe de France. Il a saisi le français l'opportunité de remplacer l'anglais. Bon, Umtiti, on l'a déjà oublié malheureusement, mais il a une carte à jouer autre que celle de remplaçant qui avait été son statut pendant la Coupe du Monde. Et sur un match comme ça, il a été solide, tranquille. On avait l'impression qu'il avait autant de bouteilles qu'un Raphaël Varane. Et il s'est bien entendu avec Lucas Hernandez à côté de lui. Bref, quand on a Ronaldo en face, faut avoir des nerfs. Et hier soir, il les a eus.
Exactement, on lui reprochait beaucoup d'avoir souvent des trous d'air dans les matchs à haute tension. On l'avait vu en équipe de France contre l'Islande notamment être assez catastrophique.
Là, on l'avait vu aussi avec parfois
oui,
le Paris Saint-Germain.
Oui, bien sûr. Mmh. Et là, je l'ai trouvé vraiment sans faille dans sa défense, intraitable, comme on dit dans les comptes rendus en général. Et voilà, c'est encourageant parce qu'à côté de Raphaël Varane, la place laissée vacante par Umtiti, pour moi, elle n'a pas été prise définitivement par l'anglais. Il n'y a pas...
Pas le même profil, les deux.
Déjà, ah oui. Voilà, et je trouve que Kimpembe est plus complémentaire de Varane que ne peut l'être l'anglais.
Ouais, je pense que c'est surtout ça, c'est que on a souvent en exemple la charnière Laurent Blanc, Marcel Desailly, qui était une des meilleures charnières de l'équipe de France, l'histoire de l'équipe de France. Ils avaient des profils très différents, très complémentaires. Et je trouve qu'effectivement, Varane, Kimpembe, ça semble plus équilibré. Et surtout, Kimpembe, il apporte un truc que peu importe, c'est cet impact physique. C'est un monstre. Honnêtement, c'est un monstre.
D'un mec comme ça.
Il fait penser à un Marcel Desailly de la grande époque.
Mmh. Et,
et après, il faut rappeler aussi qu'il est très jeune. Hein. Il a que 25 ans. Il a eu tout juste 25 ans au mois d'août. Donc, il a encore une marge de progression énorme. Il progresse avec le PSG. Et s'il continue comme ça sur les 6 prochains mois, je ne vois pas comment il pourrait ne pas être titulaire à l'Euro.
Et on se rend compte quand même de quelque chose, c'est que le profil de nos défenseurs, souvent dans le profil de ce que recherche Deschamps, c'est des défenseurs qui jouent l'anticipation, qui jouent le placement, qui essayent d'être en avance. On a besoin d'un type qui va au duel et toutes les grosses nations ont un défenseur qui donne son corps à la science et qui va au combat. Et en plus de ça, ce que j'ai aimé chez lui, c'est les remontées de balles qu'il a eues. Il n'y en a pas eu une dizaine dans le match, mais je l'ai vu prendre le ballon, remonter, faire 15-20 mètres, essayer de faire remonter le bloc.
Il a appris à être autoritaire, c'est vrai.
Et ce qui lui manquait, il a toujours été bon dans ce registre, ce qui lui manquait, c'était cette espèce de fantaisie un peu bizarre, cette espèce de grain de folie qu'il avait, qui lui a parfois joué des tours, et que le jour où il serait plus intelligent, même si c'est pas très beau de le dire, le jour où il serait plus intelligent, il serait meilleur. Il est en train, j'ai l'impression, de devenir plus intelligent. Et lui, pour le coup, c'est vraiment celui qui a, pour moi, le plus gagné sa place sur les six derniers mois, sur la dernière année de foot équipe de France, c'est celui qui a le plus gagné sa place dans l'équipe.
Après, il y a un joueur, et je pensais qu'on allait parler de lui, moi, en fait, quand on parlait homme du match, qui pour moi était l'homme du match, c'est Lucas Hernandez, dont c'était le retour. Et je trouve que ce joueur-là, à la Coupe du Monde, pour moi, c'était le meilleur sur la compétition.
Il apporte
surtout un espèce de semblant d'âme, un peu guerrière, à cette équipe qui manquait beaucoup.
Oui. Et
je trouve qu'avec lui, c'est pas la même équipe de France.
Quand il prend le ballon
Il y a une grosse intervention sur Ronaldo, mais sur l'apport offensif.
Ronaldo est un peu lent.
Mais c'est normal, il est en mode de compétition, il revient. Mais je trouve que pour un retour, c'était assez impressionnant.
Alors, il n'y a pas eu d'action mémorable, véritable, ou plutôt si d'ailleurs, mais là, c'est, on va dire, off the record, en dehors en tout cas, mais pour s'en amuser un peu. C'était sur la pelouse, il y avait eh bien ce face-à-face Gaëtan lui aussi. Alors, on avait les champions du monde contre les champions d'Europe, mais on avait aussi une star, immense star du football, qui est le grand Cristiano Ronaldo, et puis ce jeune attaquant des Bleus, Kylian Mbappé.
Ah, les gens m'appellent l'idole des jeunes, et l'on... On est même qui m'envie, mais il ne...
Alors, on n'a donc pas eu de but de l'un ni de l'autre, mais on a vu cet échange dans le rond central, non pas de ballon, mais ce regard complice. En début de deuxième mi-temps, une star et son idole, donc, Kylian Mbappé. On aimerait bien savoir ce qu'ils se sont dit hier, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelques années, eh bien, le joueur français parlait dans un documentaire sur beIN Sport de son admiration pour Cristiano Ronaldo.
Ouais, j'ai eu pas mal d'idoles, mais après c'est vrai que j'ai eu Cristiano beaucoup. Bah, je suis né dans cette époque-là avec Cristiano et Messi. Bah, le but de Ronaldo à Didi. Parce que j'ai eu la chance de côtoyer Didi, il m'en a parlé, donc d'avoir aussi son ressenti, en plus du but de légende qu'il a mis, donc c'est un tout, donc ouais, je dirais celui-là.
Comme but marqué en retournée dans le stade de
à la
Juve à Turin face à Gigi Buffon. Cristiano Ronaldo lui aussi, il a parlé gentiment de Kylian Mbappé.
Mbappé, it's the future and the present. He's a fantastic player. He's very fast and you know and will be the future. Yeah.
Bon voilà, on n'a pas traduit, mais on comprend fantastique, présent, futur.
Que ça soit un passage de témoin entre les deux, parce que voilà, c'est la star d'aujourd'hui, encore un peu aujourd'hui en tout cas, et puis avec la star de demain, qui n'est pas encore celle d'aujourd'hui, parce qu'on voit quand même depuis, je trouve, la Coupe du Monde, quand il y a des gros matchs.
On est bien d'accord. Hein.
On voit qu'Mbappé, il lui manque encore quelque chose et qu'il a du mal à progresser.
Écouter justement, juste avant vous, Patrick Juillard, Didier Deschamps parlait justement de ces deux personnages et en fait, il se refuse à les comparer.
Il faudra faire une comparaison, si vous avez envie, lorsque Kylian sera au même âge et par rapport à tout ce qu'il aura fait. De par l'âge, Cristiano a sans cesse chaque saison cette force de pouvoir être décisif à tout moment. C'est une force aussi de Kylian, bien évidemment, en étant beaucoup plus jeune, mais ce qui les classe les deux dans la catégorie de top joueurs au niveau mondial.
Justement, ça va dans votre sens et on a vu que Kylian Mbappé, il a encore des progrès à faire sur certains plans, Patrick.
Justement, c'est ce qui m'a frappé en entendant Cristiano Ronaldo. Bon, la déclaration, elle est c'est une déclaration de circonstance qui a l'air anodine, mais il dit quelque chose, il dit il est très rapide.
Il est très rapide.
Parce que qu'est-ce qu'on retient pour l'instant de Mbappé, c'est la vitesse. Mais on ne dit pas encore, on ne compare pas encore à des joueurs niveau Ballon d'Or. Il doit encore progresser, élargir son registre. Et même, on peut dire même qu'à l'époque de l'AS Monaco, quand il était partenaire de Falcao en attaque, il faisait peut-être plus d'efforts collectifs qu'il n'en fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il doit remettre un peu le bleu de chauffe, pour parler vulgairement, Mbappé.
Antoine Griezmann, Antoine Grenier. C'est pas Antoine Griezmann qui est avec nous. Antoine Grenier, vous aussi, vous ne vous risquez pas à les comparer, même si Kylian Mbappé a quelques réussis par rapport au temps de passage de l'âge, comme on dit, quelques petites prouesses par rapport à Cristiano Ronaldo.
Oui, bien sûr. Kylian Mbappé est champion du monde. Ça a été un des joueurs les plus en vue lors de la Coupe du Monde. Hier, il était tout sourire quand il a croisé Cristiano Ronaldo. Et puis, ils ont un peu échangé, ils sont un peu chambrés. Pour la petite histoire, c'est même pas Kylian Mbappé qui a récupéré le maillot de Cristiano Ronaldo après le match. C'est Eduardo Camavinga qui a eu le droit.
Et qui ne le lavera pas, a-t-il dit sur Twitter.
Donc il n'est pas encore adoubé Kylian Mbappé. Ce qui est sûr, c'est que Cristiano Ronaldo a su quitter son pays d'origine assez rapidement pour aller en Angleterre. Kylian Mbappé va devoir faire des choix de carrière et travailler comme le fait Ronaldo pour arriver à ce niveau-là. Ronaldo à lui tout seul travaille quasiment autant que tous les joueurs du Paris Saint-Germain réunis. Donc il va falloir que Kylian Mbappé fasse un gros effort. Il a le talent, il a le potentiel naturel pour le faire et il a marqué de nombreux buts en équipe de France et il est amené à être le joueur par excellence de Didier Deschamps dans les années à venir. Mais c'est sûr qu'il s'est un peu éteint sur ces deux dernières années et qu'il va falloir reprendre la marche en avant assez vite.
Pour terminer, j'aimerais qu'on parle de cette tonalité de ces rencontres européennes, de cette nouvelle compétition qui en est à sa deuxième édition. Vous disiez justement qu'on n'a pas senti toujours les joueurs avec une énergie énorme. Et il y a cette déclaration que vous signalez sur Twitter.
Kevin De Bruyne.
Bruno Constant, effectivement, de Kevin De Bruyne, donc le Diable Rouge, qui dit « Personne n'écoute les joueurs, on ne parle que d'argent, mais pas de des blessures qui vont arriver. » Et il dit « L'été dernier, je n'ai eu que 8 à 10 jours de vacances. » Bref, le calendrier est beaucoup plus lourd et on a l'impression qu'avec la pandémie, on a notamment regroupé les matchs de Ligue des Champions, plus les championnats qui commencent en retard, en ayant un euro en vue l'été prochain. Est-ce que c'est une des raisons pour vous qui fait que peut-être que cette Ligue des Nations est moins brillante ou moins intéressante?
C'est une des raisons majeures. J'ai repris la saison, justement, comme c'est De Bruyne, sa saison à lui, en tout cas avec Manchester City, en 2019-2020. Ils ont commencé la saison le 3 août. Ils l'ont terminé le 26 juillet, le championnat. Ils ont enchaîné, parce qu'il n'y a pas eu de vacances. Il y a eu le 7 août un match de Ligue des Champions face au Real. Le 15 août, un match de Ligue des Champions face à Lyon. Ils ont ensuite enchaîné avec... Ils ont eu 10 jours de vacances. 10 jours de vacances. Ils ont enchaîné avec deux matchs internationaux, 5 et 8 septembre. Et ensuite, le début de la saison anglaise, dès le 21 septembre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de repos en... Non, non, presque quoi, 14, 15 mois.
Et en plus, ils ont le Boxing Day.
Il faut préciser aussi que, parce que certains répondent comme ça sur Twitter, le fait qu'il y ait eu la pandémie, les 3 mois de coupure, c'était pas des vacances. honnêtement, tous les joueurs ou les échos de joueurs qu'on a eu, il y a une espèce de d'usure psychologique, de pas savoir quand est-ce qu'ils allaient reprendre, de s'entretenir physiquement.
C'était un peu mondial, hein, cette.
C'était très compliqué à gérer, ce qui explique peut-être l'usure physique et psychologique des joueurs aujourd'hui.
C'est une réalité que quand on veut faire des compétitions pour de l'argent, c'est-à-dire des compétitions chargées en termes de matchs qui s'étalent dans le temps, forcément on use les joueurs.
Mais ça, c'est oui, une parce que cette formule, c'est... en fait, Ligue des Nations se voulait regroupant tous les matchs amicaux sous forme de...
La Ligue des Nations en soi ne sert à rien. C'est qu'on va nous dire d'ici un mois, oui, mais ça a permis de qualifier un petit pays, c'est formidable, c'est machin. À côté de ça, regardez le nombre de pays qu'il a disputé pour du beurre.
Et même
les équipes qu'il a gagnées, les Pays-Bas, ils l'ont gagné, ou le Portugal l'ont gagné. Le Portugal, qu'est-ce qu'ils ont eu de plus?
C'est le match de l'Ukraine, par exemple, qu'on fait jouer juste avant pour faire un peu d'argent pour la Fédé.
Ah bah oui, mais de toute façon, il a fallu combler le manque à gagner.
J'ai trois matchs en 10 jours à l'équipe de France.
Donc on fera du quantitatif.
Personne, par exemple, n'a parlé des barrages de qualification pour l'Euro qui ont eu lieu cette semaine. On n'en a pas parlé. Et pour des petits pays comme la Hongrie, comme la Macédoine et j'en passe, c'était important.
Et l'Islande.
Et en fait, tout cannibalise tout. C'est-à-dire, la Ligue des Nations, l'enjeu est très flou. Ouais. On peut peut-être se qualifier, mais c'est pas grave. Si on se rate, il nous reste les éliminatoires classiques pour accéder à l'Euro. Donc, c'est un non-sens qu'il faut supprimer du calendrier. Mais malheureusement, c'est comme le Mondial des clubs. Au lieu de le supprimer, on le grossit. Donc, c'est un puits sans fond.
Et vous, Antoine Grenier, ça va? Votre calendrier, vous arriverez à le tenir? Vous partez pour la Croatie?
Demain matin, départ pour la Croatie, ensuite les conférences de presse, match mercredi pour la quatrième journée de cette Ligue des Nations, Croatie-France, les Bleus qui avaient gagné 4-2 lors du match au Stade de France contre les Croates. Donc peut-être reprendre aussi cette marche en avant offensive, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Bleus marquer. Justement, la dernière fois, c'était en Turquie, à Konya, donc ça remonte à juin dernier, à juin 2019. Donc voilà, on attend un festival offensif en Croatie à Zagreb mercredi.
Merci beaucoup Antoine Grenier, et j'ai l'impression donc qu'on va se reparler très vite dans Radio Foot International. Merci beaucoup Antoine. Nous on continue, on part en Afrique.
المغربي من خلال هذه المحاولة الأخيرة سنتابع الآن كرة عالية وممتاز وهدف ثالث ويوسف العربي بطريقة اللاعبين الكبار يحتفل بهذا الهدف بطريقة القناصين وبالتالي يوسف العربي يسجل هدف بصدر.
Un confrère marocain qui évoque cette sévère défaite, voire une déroute pour les Lions du Sénégal qui rencontraient les Lions de l'Atlas de Wahid Halilhodžić. C'était à Rabat et ils s'en sont très bien tirés puisqu'ils ont battu le Sénégal par 3-0. 3-1, pardon. Aliou Cissé a reconnu que la leçon était un peu sévère. On n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes, dit-il. En même temps, il parle de matchs de reprise, de retour et de rencontres entre les joueurs qui étaient privés, c'est quand même important de le signaler, de Sadio Mané et de Koulibaly.
Notamment, oui. Alors le score est un peu trompeur parce que le match a vu le Sénégal plutôt avoir la possession du ballon mais ne pas en faire grand-chose. Et le Maroc s'est montré très efficace, a su vraiment transpercer cette équipe à 3 reprises, avec des buts assez variés dans leur construction, une ouverture, un jeu construit et une tête qu'on a entendu en commentaire d'El Arabi. Voilà, une équipe un peu dépassée du Sénégal, en difficulté défensivement, sur la largeur. L'entrée de Ziyech aussi, qu'on revoyait jouer après ses débuts un peu retardés avec Chelsea. Et ben ça a beaucoup dynamisé cette équipe, ça a apporté encore un surcroît technique, un surcroît dans la construction du jeu. Donc voilà, c'est un Maroc qui va devoir maintenant tout de même confirmer, puisque le Sénégal peut se consoler en disant que lui n'a pas été battu par le Bénin à la CAN.
Non mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que le Sénégal qui a la possession mais qui en fait rien, finalement c'est un mal récurrent du Sénégal depuis 2 ans, 3 ans.
Par rapport à son potentiel offensif, c'est une équipe qui ne marque pas assez.
C'était le cas, ça a été souligné maintes et maintes fois pendant la CAN. Et puis effectivement, il manquait Koulibaly, il manquait Sadio Mané. On sait que c'est des joueurs importants, ça affaiblit une équipe. Mais enfin au milieu, vous avez Gueye, vous avez Crépin Diata, il y a Famara Diédhiou au dernier match qui avait marqué un triplé quand il était associé avec Sadio Mané. Vous avez quand même des joueurs de qualité. Le Sénégal, contrairement à d'autres pays d'Afrique, a moins la problématique du banc de touche.
parce qu'il a justement un gros réservoir, parce qu'il est capable, même s'il a des joueurs majeurs qui font la différence à des joueurs à l'échelle européenne, il a quand même un réservoir de banc qui lui permet, par rapport à d'autres nations, notamment par rapport au Maroc, d'être très efficace quand il a des absents. Donc c'est un peu incompréhensible, mais c'est le cas depuis quelques temps quand même.
Oui. En tout cas, le Sénégal aura l'occasion de se rattraper. Ça sera face à la Mauritanie et ça se jouera à Thiès. J'avais promis dans le Café des Sports qu'on en reparlerait. Alors on dit des fois, on promet qu'on n'en reparle pas. Alors nous en reparlons. Je voulais juste un petit éclairage de votre part, Patrick Juillard, sur Mounir El Haddadi. Le fameux qui était espagnol, qui a opté pour le Maroc et qui, au moment de jouer pour les Lions de l'Atlas, eh bien, est barré par la FIFA, qui dit qu'il ne rentre pas dans le cadre de cet amendement qui porte son nom.
Et pourtant, si on regarde bien les critères, les quatre conditions qui seraient un peu longues à énumérer, mais en gros, ne pas avoir joué plus de 3 matchs avant 21 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est que la FIFA a retoqué la demande du Maroc. Visiblement, d'après ce que dit la fédération marocaine, la FIFA reprocherait à Mounir El Haddadi d'avoir joué avec l'équipe d'Espagne Espoir après la date limite des 21 ans. Ce qui me paraît curieux, c'est que c'était pas dans la liste limitative, dans les conditions qui ont été données au moment du vote de l'amendement. Donc le Maroc a déposé un dossier au TAS pour faire casser cette décision. On attend maintenant le verdict de la cour arbitrale du TAS.
Eh bien, décidément, ce Mounir El Haddadi, il n'a pas de chance pour ce qui est de porter un maillot national. Alors honneur maintenant, en quelques instants aussi, c'est aux éperviers. On a l'impression qu'ils poursuivent sur leur belle lancée de la dernière.
On parlait des écureuils, je pense.
Des écureuils, Bénin. Pardon, excusez-moi. Des écureuils du Bénin qui poursuivent donc leur lancée avec cette jolie victoire obtenue sur le Gabon. C'était à Lisbonne, ils ont gagné par 2-0. Alors c'est vrai que le Gabon se présentait sans Aubameyang notamment et d'autres joueurs cadres, on va dire, de l'équipe.
Mario c'est incroyable, Lemina, c'est qu'il n'y avait pas Aubameyang avec le Gabon.
Bah, c'est pas la première fois. Bah.
Hein,
c'est un peu ironique, ça.
Oui, c'est ironique. Oui.
Non, mais c'est pas la première fois et c'est malheureusement sans doute pas la dernière. Il y a des rapports assez compliqués entre Aubameyang et l'état-major de la sélection.
Qui était dans la liste, hein,
qui était dans la liste et qui n'avait pas a priori de blessure.
Le médecin d'Arsenal lui a trouvé une entorse.
Sans doute. Mais bon, le Bénin, mieux en. Mais c'est pas tellement une surprise. Le Bénin qui est quart de finaliste sortant de la CAN.
Exactement.
Qui avait fait des plutôt bonnes impressions. Une équipe assez défensive, mais au moins cohérente et assez rugueuse et dure à manier, on l'a encore vu. Michel Dussuyer avait innové en mettant Olivier Verdon en milieu défensif, alors que c'est plutôt un défenseur à la base, ancien joueur de Sochaux notamment, qui est parti en Bulgarie. Et voilà, moi j'ai pas été tellement surpris. On peut souligner la bonne performance d'un joueur que Dussuyer est allé chercher à l'époque, en troisième division allemande, qui est un germano-béninois qui joue sur le côté droit, milieu offensif, Sebio Soukou, auteur du premier but et passeur décisif sur le deuxième. Donc, rien à dire sur sa prestation.
Voilà pour les écureuils donc du Bénin qui continuent sur leur lancée. Et un tout petit mot, encore plus petit, c'est sur le Burkina Faso qui, lui, 3-0 contre la RDC. Alors, équipe là aussi très remaniée.
Très inquiétant.
RDC, ça commence à être inquiétant.
Oui, parce que depuis le départ de Florent Ibengue, même la fin de Florent Ibengue.
5 matchs, 0 victoire. Et puis le contenu qui est quand même pas terrible. Il manquait des joueurs. Il manquait des cadres, Bakambou, Kakuta, ainsi de suite. Mais enfin, la RDC, il y a quand même. Ils n'ont pas, contrairement à d'autres, ils n'ont pas l'excuse de ne pas avoir un championnat et des équipes qui leur fournissent des joueurs. Non. C'est un peu ça le problème.
Oui,
tout à fait d'accord. Et c'est au contraire le Burkina Faso qui peut être vulnérable en cas de perte d'un ou deux titulaires. La RDC, là, visiblement, le Nsangui, le sélectionneur, n'a pas trouvé la bonne carburation. Il ne sait pas trop sur quel fil tirer. Alors, ils vont jouer un second match, tout comme le Burkina Faso, donc qui joue contre Madagascar ce soir.
Et, Maroc, la RDC.
Et la RDC joue demain à Rabat contre le Maroc. Donc, c'est un vrai test, ça.
Ouais. Et c'est très important pour ces équipes parce que dans quelques semaines, dans un mois à peu près,
décisive pour
la qualification
de la
pour la prochaine CAN au Cameroun en 2022. Donc, ce sont des qualifications toujours très importantes. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous demain pour une autre actualité football. On ne manque jamais de sujet. Merci. Bonne soirée.